Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Silence en joue, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Starships, le nouveau jeu de Sid Meier's qui va sortir la semaine prochaine, The Order 1886, Monsieur Fall, et on finira par Blue Estate, le rail shooter, le motion rail shooter, comme on pourrait l'appeler.
Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien.
C'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, ouais. Nouveau genre. Et puis Monsieur Fall, comme des coms, vous reconnaissez le reste du programme, et je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio du JDLI. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
On va faire ça en duo aujourd'hui. Hein, ouais. C'est bien en duo aussi.
Sans pression.
Voilà. Sans pression. Voilà, à la cool. D'ailleurs, du coup, on va commencer directement avec toi qui parler de Telltale.
Telltale, on aime bien Telltale. On suit régulièrement ici leurs sorties de jeux d'aventure. Ouais. On rappelle que c'est quand même un des grands acteurs du jeu d'aventure contemporain, hein, qui a vraiment donné ses lettres de noblesse au genre ces dernières années, The Walking Dead, Game of Thrones, et on en reparlait il y a quelques semaines. C'est vraiment aujourd'hui un des grands studios du jeu d'aventure. Et on a appris cette semaine, alors c'est une nouvelle quand même assez importante, puisqu'on a appris que Lionsgate, c'est un des grands studios hollywoodiens, donc qui est vraiment dans la production, alors je notais de films, hein, donc alors Lionsgate, c'est des films comme Hunger Games, j'ai jamais vu, mais je crois que c'est un gros morceau en termes d'audience, je crois.
Ouais,
Expandables 3 aussi, Expandables 3, ça me parle déjà un peu plus. Ouais. Et sinon, côté série télé, c'est quand même Mad Men, donc voilà, c'est quand même un géant hollywoodien qui a plusieurs cordes à son arc, aussi bien en cinéma qu'en série télé. Et justement, ça nous amène à ce sujet qu'on va aussi aborder peut-être un petit peu plus loin dans l'émission, dans le Silence on Joue d'aujourd'hui, sur cette rencontre entre le cinéma et le jeu vidéo. C'est peut-être finalement le fil rouge de l'émission aujourd'hui. C'est que donc ce studio Lionsgate a mis visiblement pas mal d'argent dans Telltale, le studio californien Telltale, et donc qui vont désormais travailler ensemble sur des projets communs. Voilà, donc...
Je veux pas dire, mais The Expendables par Telltale, je suis assez curieux.
Moi, je signe immédiatement, ce serait assez énorme. Donc, alors, pour l'instant, on n'en sait pas énormément plus. Il y a eu plusieurs interviews qui sont tombées dans la foulée de l'annonce. Quelque chose qui semble se dessiner, donc, ça serait l'émergence de projets en commun. Donc, à la fois produits par Telltale pour le côté jeux vidéo et par Lionsgate pour le côté cinématographique ou série télé. Et dans une interview que j'avais trouvée, Kevin Brunner, qui est le patron de Telltale, le fondateur, c'est un ancien de LucasArts qui avait donc lancé Telltale dans les années, début des années 2000, a expliqué qu'il travaillait sur des concepts de super show, entre guillemets, je cite, qui seraient donc en préparation et qui combineraient jeux vidéo et séries télé.
En français, super série, hein, parce
ouais,
que
voilà, c'est, des concepts.
Parce que le show, voilà, le voilà, TV show, voilà, c'est TV ça, show, c'est la série.
Comme tu dis, des super séries qui vont, on peut imaginer, combiner la narration à la Mad Men et de l'interactivité à la Telltale. Donc sur le papier, c'est très prometteur. Puis je trouve que c'est, voilà, que c'est une bonne chose. Telltale, ils font un super boulot depuis des années. On sait qu'ils ont, il y a eu l'explosion aux The Walking Dead. C'est vrai qu'avant leur production, moi j'étais un peu plus mitigé hein, entre.
Ah, t'étais pas le seul.
Il y a eu, voilà, il y a eu des jeux qui étaient assez mauvais, genre le Jurassic Park qui était pas terrible, mais qui testait des choses comme les QTE. Mm. Il y a eu le retour vers le futur qui était pas terrible. Et puis évidemment The Walking Dead qui vraiment a transfigurer le genre quasiment, qui a vraiment posé pas mal de questions en termes
de narration. Et surtout, il y a eu The Walking Dead et puis il y a eu les jeux qui ont suivi The Wolf
après,
Among Us, Borderlands.
Tales of From Borderlands, qui étaient vraiment des bons jeux
Game
d'aventure.
Game of Thrones, c'est la deuxième saison de The Walking Dead, qui sont presque aussi importants que le premier The Walking Dead parce qu'ils confirment cette capacité. C'était pas un coup de bol, ça confirme la capacité de Telltale à fournir, à créer ce genre de jeu.
Et c'est effectivement, quelque part, le mariage paraît quelque part logique parce que s'il y a aujourd'hui un studio qui sait gérer la narration par épisode sous forme d'aventure, c'est bien Telltale. Donc finalement, tout ça se goupille plutôt bien. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça, on verra après la transformation de tout ça. Quelle forme ça va prendre? Est-ce qu'on peut imaginer ou bien des jeux d'aventure qui vont peut-être avoir des pendants séries télé en même temps, avec peut-être des narrations un peu transmédia, avec des actions se passant chez l'un et qui auront peut-être une interférence avec l'autre? Est-ce qu'on va avoir des purs produits hybrides? On peut imaginer peut-être on peut imaginer plein de choses. Hein,
Le gros danger, évidemment, dans ce genre d'opération, en tout cas, c'est ce que presque l'histoire nous apprend, c'est quand t'as un mastodonte de l'entertainment qui rachète un gros du jeu vidéo.
Ah, il a pas racheté, attention. Hein.
Non, mais il a pris les parts.
Il y a eu un investissement conséquent. J'ai pas vu de chiffre passer, mais on parle d'un investissement conséquent. Donc, on peut imaginer qu'ils ont mis pas mal.
Généralement. Enfin, jusqu'ici, en tout cas, le jeu vidéo se retrouvait quand même à la cinquième roue du carrosse, donc sans beaucoup de considérations à faire, on va dire, du produit dérivé plutôt que... Parce que dans la force du transmédia, c'est que le jeu vidéo arrive à travailler en parallèle et au même niveau qu'une série.
Que dès les conceptions, ce soit travaillé en même temps.
Et c'est là où, jusqu'ici, en tout cas, les mastodontes de l'entertainment classique, entre guillemets, ont eu du mal à intégrer dès l'origine les deux et ont considéré le jeu vidéo comme étant un formidable produit dérivé.
Oui, qui sortait après, qui était adapté, c'était vraiment une adaptation. Et c'est vrai que la force de Telltale, c'était aussi, par exemple, avec The Walking Dead, on revient toujours à ce titre, mais ça a été aussi d'aborder l'adaptation d'une licence d'une façon complètement différente, en revenant aux racines du comics et en créant une branche scénaristique à part, mais aussi inclus dans tout l'univers transmédia de Walking Dead. Donc, Telltale, on leur fait confiance, après on va voir ce que ça donne. Et puis on a appris aussi que j'ai vu que John Riccitiello, c'est le patron de Unity, c'est le moteur Unity, c'est aussi un ancien de Electronic Arts, il a été pendant des années.
Ah oui, un petit peu, oui, quand même.
Chez Electronic Arts, à deux reprises, lui, il arrive au conseil d'administration de Telltale. Donc, ça bouge, c'est Telltale. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que lui vient? Est-ce que c'est pour le côté techno?
C'est quand même un des studios les plus en vue.
C'est clair. Bien, en tout cas, on n'a pas fini d'entendre parler d'eux, à mon avis. Voilà, c'est clair.
C'est ça. Le com des coms d'il y a deux semaines. Oui, la semaine dernière, il n'y a pas eu de silence en joue. Nos excuses. Mais bon, on essaye hein, de ne pas trop faire sauter des missions, hein, promis. Donc, le sujet, c'était quoi le sujet? Il y avait du Monster Hunter. Il y avait d'autres choses. Mais donc, on avait aussi parlé, en news d'intro de Peter Molineux, sujet qui a fait extrêmement réagir, notamment Alan San qui dit « Je trouve dommage ce procès d'intention autour de Molineux. Je comprends que c'est sans doute chiant pour les gens qui ont backé. Je suis dans le même cas que j'ai backé Stomping Lands dont le dev a utilisé un fumigène ninja et a complètement disparu. Mais comme le dit Erwan, on a fait une promesse et moi je dirais même plus, on fait un pari pour qu'un jeu unique puisse sortir un jour. Je ne regretterai jamais mes 20% de back foireux pour les 30% qui m'ont surpris et le restant qui était comme attendu. Dans mes regrets, il y a eu évidemment Stomping Lands, Planetary Annihilation et Shroud of the Avatar. Mais dans les grandes surprises, il y a quand même Divinity Original Sins, Dreamfall Chapters, FTL et Planet Explorer. Là, je fais une parenthèse dans ce commentaire. Je viens de me rendre compte que donc Dreamfall Chapters que j'ai backé est sorti. Il faut vraiment que je me tienne à jour, parce que c'est quand même un des trucs que j'attendais, mais j'ai complètement passé à côté. Donc,
et tu l'as baqué en plus.
Oui, je l'ai baqué.
Donc t'as dû recevoir des accès.
Ah non, mais il y avait Ragnar Tornquist. Il y avait Ragnar Tornquist. Bah je back, c'est tout. C'est un automatisme. Voilà, c'est un peu mon Peter Molineux à moi, si tu veux. Après, il faut se souvenir qu'on doit à Peter Molineux trois jeux majeurs avec Populous, Dungeon Keeper et Syndicate. Il y a très peu de devs qui peuvent se vanter d'avoir fait autant avancer le jeu vidéo que lui. Du coup, je lui pardonne beaucoup de choses. Sur le même sujet, Zali El Falcam. Moi, je trouve très légitime qu'on tacle Molineux sur tout un tas de trucs. Après tout, c'est pas complètement con si ses producteurs ne sont pas contents de l'argent investi. Mais il y a une grosse limite qui me semble avoir été complètement franchie. L'article de Rock Paper Shotgun, c'est pas du journalisme, c'est un tribunal populaire pour se payer une cible facile. Je trouve ça complètement délirant de haine et d'agressivité. Ou alors, il faut faire ça avec à chaque fois qu'un mec foire un projet, ou qu'Ubisoft et compagnie sortent des jeux pas finis, ou qu'un Call of sort avec 3 heures de durée de vie et un discours ultra réac. Entre parenthèses, nous on le fait, hein, on tape sur tout le monde. Bref, je dis pas ça pour dédouaner Molineux de tous les trucs chelous qu'il a fait depuis 10 ans, mais à un moment donné, la hate cynique et facile, c'est pas non plus obligatoire quand on parle de lui. Il continue et il le conclut. Au lieu de demander à Molineux si c'est un menteur pathologique, j'aimerais bien qu'on demande à ses backers si ce sont des cocus fétichistes. Ça ferait une belle enquête. Enfin, sur un autre sujet, Cytoplasme qui dit « Le parallèle entre Monster Hunter et Dark Souls est très pertinent. L'expérience de jeu est très proche dans les combats et, contre les boss, non seulement dans la gestion du personnage, vie et endurance, le timing des coups, mais aussi dans l'apprentissage des attaques des boss et des ouvertures dans leur défense. Plus que les personnages, c'est le joueur qui doit augmenter son expérience et monter son skill, d'où les dizaines d'heures de jeu avant de bien jouer. Et aussi son endurance, les combats sont bien plus longs que Dark Souls. Pour ma part, j'ai joué à Monster Hunter Freedom Unite sur Vita. Ce que je reprocherais à ces jeux, c'est leur partie farming qui oblige à faire et refaire des missions sans grand intérêt une fois maîtrisées, juste pour amasser des composants. C'est ce qui m'a fait lâcher le jeu au bout de quelques dizaines d'heures, quand même, sans avoir atteint les derniers boss. Voilà, ça c'était le com des coms donc d'il y a 2 semaines. Je rappelle, hein, le com des coms, c'est sur les forums de Silence on Joue, à retrouver à partir des liens présents sur libération.fr. Et on va commencer en partant dans l'espace.
Our scientists have long speculated that ours was not the only tribe to make this journey and establish a new home on another world. But their searching has been met again and again with silence. Until now, the transmission was weak and incomplete, but in a language not unlike our own. Our anticipation grew. What culture and knowledge had our brothers developed during the long centuries of our separation? A starship was prepared. Ambassadors recruited. But gradually, the meaning of the message became clear. It was a desperate call for help.
Starships, Sid Meier's Starships, qui est une sorte de spin-off de Beyond Earth dont on n'a pas parlé d'ailleurs. Il y a 6 mois, on est complètement passé à côté. Bah oui, mais c'était une période où on n'était pas hyper présent. C'était la période. Voilà. Beyond Earth, donc, qui était une évolution de la saga Civilization, un peu un fils spirituel d'Alpha Centauri. Je ne sais pas si tu te souviens d'Alpha Centauri, c'était le premier civilisation dans l'espace. Ouais. C'était un Sid Meier's Beyond Earth, mais comme les civilisations récents, le 4 et le 5 notamment, Sid Meier's n'est plus aux commandes, il y avait son nom sur le jeu, sauf donc ce Starships, grosso modo. Dans Beyond Earth, on explique que l'humanité a dû quitter la Terre, il y a des vaisseaux qui sont partis coloniser plein de planètes. On joue un des vaisseaux qui arrive sur une planète et qui recrée une civilisation à partir de l'écosystème, à partir de ses rencontres, à partir des évolutions technologiques. Mais finalement, on ne sait pas ce que sont devenus les autres vaisseaux. Donc, ce que raconte Starships, c'est des centaines d'années après que les premières civilisations ont commencé à s'installer sur des planètes extraterrestres. Finalement, les civilisations qui viennent de la Terre finissent par se rendre compte qu'elles existent, enfin qu'il y en a d'autres qui existent, et commencent à communiquer. Et finalement, on obtient une sorte de civilisation dans une galaxie.
Plusieurs Ouais, plusieurs pays, enfin non, plusieurs civilisations comme ça qui se...
Qui peuvent s'entraider ou...
Commercer. Ou...
Voilà, commercer, etc. Starships, c'est Sid Meier's Starship, mais et là, pour le coup, Sid Meier's est bien aux commandes du jeu. Il sort la semaine prochaine, je crois, mercredi ou jeudi.
C'est PC.
Sur PC, ouais, sur PC, hein. PC à télécharger pour une quinzaine d'euros. Donc, on n'est pas sur un très gros jeu, on n'est pas sur un jeu à la mesure d'un civilisation ou d'un Beyond Earth qui étaient donc des gros jeux, des gros 4X, on va dire. Là, on est sur un petit jeu. Mais si on reprend l'historique des jeux Firaxis, pour un jeu développé et designé par Sid Meier's lui-même, on est sur un gros modèle designé par Sid Meier's lui-même qui, depuis quand même quelques années, s'attache plutôt aux petits projets périphériques de Firaxis. C'est assez rigolo parce que les vrais projets designés par Sid Meier's, c'est les Civilization Revolution pour les consoles, des jeux pour iOS, des versions pour iOS, des versions pour Facebook, ce genre de choses.
C'est peut-être là-dessus qu'il expérimente plus, en fait. C'est plus sur l'adaptation
à d'autres... Oui, et puis je pense qu'en tant que créateur, c'est un de ces créateurs des années 80 qui aime encore avoir la main dans le cambouis et puis une vision un peu globale d'un projet une équipe
resserrée. Des gens qui sont plus habitués à travailler en petits.
Pourquoi est-ce qu'on parle de Starships une semaine avant? C'est parce que j'ai eu la chance, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de silence en joue la semaine dernière.
J'ai eu la chance
de rencontrer Sid Meier la semaine dernière à Londres assez longtemps. C'était cool. J'ai eu pas mal de temps avec le monsieur. Évidemment, vous imaginez bien que j'étais quelque peu ému de rencontrer celui qui m'a volé un nombre de nuits incalculables alors que j'étais étudiant sur le
tu
premier...
Tu lui as dit
Ouais, je lui ai dit.
Il faut le dire, ça, en général. Il ne faut pas hésiter.
J'ai failli lui dire, alors, comment s'arrange un deal et tout ça, parce que vous me devez
une
quand même...
De temps.
Voilà, quand même pas mal de nuits blanches. Et donc voilà. Alors, juste pour parler rapidement de Starships, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir plus tard. Starships est un bon jeu. Alors, j'ai joué pas énormément parce que j'ai eu accès à une version un peu limitée. Mais on va dire que c'est un back to basics, on va dire, de jeu de tactique, de jeu de combat tactique, de combat. On est sur du Sid Meier's, donc on est forcément sur du tour par tour. Mm-hmm. Grosso modo, on part de sa planète d'origine. On va aller aider d'autres planètes avec sa flotte de vaisseaux spatiaux, qui est limitée au début. Il y en a deux, mais évidemment, on va pouvoir acheter de nouveaux vaisseaux, améliorer ceux qui existent. Et on va aller aider les planètes environnantes qui vont, si on les aide suffisamment, rejoindre notre fédération et donc augmenter la fédération, sachant qu'il y a d'autres fédérations un peu moins amicales qui, elles aussi, vont aider les planètes autour d'elles, donc vont agrandir la fédération. Alors, c'est là où c'est très différent d'un civilisation, c'est que en fait, le seul moyen d'agrandir vraiment ces fédérations, c'est d'aider les planètes, de faire des missions, et les missions, c'est des cartes, des maps de combat spatial. Et là, pour le coup, donc on contrôle sa flotte sur une map avec des hexagones, c'est du tour par tour, on a des points de déplacement, des tirs pour détruire...
Bataille navale un peu.
Non, un petit wargames, où on a des points de mouvement, on tire si on a un angle de tir. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on est sur du très old school, Non, c'est du choix, en fait. C'est un choix de design plutôt que du old school. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des combats dans l'espace, les combats, c'est en 3D, parce que l'espace, c'est en 3D, on peut tirer au-dessus. Sauf que là, c'est l'aspect très jeu de plateau du combat spatial. En fait, on a vraiment cette impression presque de jouer à un jeu de plateau où tout est plat. Voilà, on déplace son petit vaisseau spatial sur une carte avec des hexagones, et puis on a on est sur du jeu de combat tactique.
Le jeu, visuellement, il est en 2D,
il est en 3D, en 3D. Mais sur une carte tout en 2D, c'est-à-dire la galaxie est représentée avec aussi des hexagones en 2D, tout sur une carte. Donc voilà, il y a un côté un petit peu old school. C'est un jeu pour le coup qui fonctionne avec pas mal de petites trouvailles, augmenter sa flotte, etc.
Est-ce qu'il y a des méchants extraterrestres où on est quand
non humain? Alors en fait c'est que des humanoïdes. En tout cas sur ce que j'ai vu, c'est possible qu'il y ait évidemment des extraterrestres. Un de ces quatre. Alors en fait, moi j'ai voulu, j'ai enregistré hein, notre entretien. J'ai voulu vous faire profiter de quelques-unes des questions. Je vais faire de l'auto-promo. L'interview au long, ce sera dans Libération ce vendredi. Une double page d'interview de Sid Meier's. Mais écoutons un petit peu. J'ai posé d'abord forcément les questions sur Starships lui-même et finalement, c'était quoi son envie profonde quand il a décidé de se lancer dans ce projet Starships? C'est un sujet avant tout excitant. Quand j'avais 12 ou 13 ans, la série originale de Star Trek était diffusée à la télévision. Le vendredi soir, on rentrait à la maison pour regarder les aventures du Capitaine Kirk. Aujourd'hui, on peut trouver ça désuet, mais à l'époque, c'était captivant. Et je crois que c'est resté dans un coin de ma tête. Il y a tellement de possibilités dans ce genre d'univers. En tant que designer, c'est amusant de jouer avec. Et puis, il y avait les artistes avec qui je travaille qui voulaient vraiment faire un jeu de science-fiction pour laisser un peu libre cours à leur imagination. Alors évidemment, bon là, on est sur une, sur son côté Star. Il m'a beaucoup parlé de Star Trek et du Capitaine Kirk. Il a même ajouté que dans le premier prototype qu'ils avaient, il y avait les photos de Kirk et Spock étaient là. Bon après, pour des questions de licence, ils les ont pas laissés. J'ai quand même demandé s'il avait utilisé son pouvoir magique. Est-ce que pour Starships, il avait utilisé le pouvoir magique de Sid Meier's, qui est de forcer les joueurs à jouer juste un tour en plus avant d'aller se coucher encore et encore jusqu'au petit matin. Est-ce que pour Starships, il a utilisé ce pouvoir spécial? Ça pourrait marcher. Juste une autre mission. J'espère que ça va marcher. Je sais comment ça fonctionne avec un civilisation, mais pour un autre type de jeu, c'est compliqué à prédire. À la fin d'une mission, vous voudrez peut-être faire un petit break, je ne sais pas. Le joueur aura, on l'espère, envie de reprendre, de revenir jouer, mais avec un système basé sur les missions, ça devrait être plus facile de se détacher. Mais bon, vous allez y penser, vous allez peut-être rêver à Starships, et le lendemain, vous reviendrez car vous aurez enfin trouvé quoi faire. Alors après voilà, évidemment on n'a pas parlé que de Starships, et dans la lignée de la question précédente, j'ai quand même demandé. Est-ce que, justement, sur ce pouvoir un peu magique des civilisations, le Just One More Turn, est-ce que, vu qu'il la maîtrise pour les civilisations, c'est quoi la recette de ce sort magique qui impose aux joueurs de jouer un tour de plus?
We have some ideas.
On a quelques pistes.
Expecting it, but once when the first civilization went out.
Mais au début, en fait, on ne s'y attendait pas. Quand le premier Civilization est sorti, on a commencé à avoir des retours de ces joueurs qui ne pouvaient pas s'arrêter de jouer, qui n'arrêtaient pas de continuer juste un tour de plus. On a regardé ce qui se passait précisément. Dans Civilization, il y a beaucoup de choses qui se passent au même moment. De ce côté, vous explorez un nouveau continent, par là, vous parlez avec Gandhi ou Genghis Khan, et il y a cette merveille que vous êtes en train de construire qui n'est pas tout à fait finie. Et vous êtes sur le point de découvrir la poudre. Et le joueur ne cesse d'anticiper ce qui va se passer le tour suivant et celui d'après. Il n'y a jamais un moment où tout est à l'arrêt, où plus rien n'est sur le point d'évoluer. Et il y a toujours une bonne raison pour vouloir absolument découvrir ce qui va se passer le truc suivant. Le truc, c'est de toujours avoir 3, 4 ou 5 événements qui sont sur le point de se produire. Et puis un tour, notamment au début du jeu, c'est pas bien long. Et puis juste un autre tour, c'est à peine 5 minutes. Voilà, c'est
mais
je trouve ça intéressant comment il décrypte effectivement une civilisation. Quand on regarde précisément, à la fin d'un tour, il y a toujours plein de choses qui sont sur le... Il y a toujours plein de choses qui sont juste sur le point d'arriver. Ouais. Et en fait, c'est ça
qui... Donc, c'est prémédité, tout ça, en fait. Bah... C'est pas du tout...
En fait, il explique que, ouais, non, c'est pas prémédité pour le premier, mais finalement, ils ont affiné, ils ont cherché à continuer sur cette voie-là. Alors après, l'entretien continue. Puis j'ai voulu quand même lui poser la question qu'on a dû lui poser environ 8 millions de fois, qui est pourquoi il y a Sid Meier's devant tous ces jeux-là.
C'est l'époque,
et d'où ça vient? Alors il m'a expliqué que ça venait... Alors il m'a expliqué que ça venait de... En fait, au début de Microprose, hein, qui était son premier studio, qu'il avait sorti avec Brian quelque chose. Il faisait surtout des jeux militaires comme F-19 ou Silent Service, le jeu de sous-marin. Et lui, il voulait absolument faire son jeu de pirate. Mais bon, son associé, il disait, mais non, les gens, ils aiment bien les jeux militaires, on continue à faire des jeux militaires, machin. Et puis Sid Meier's, tu vois, à chaque fois, je mets le S apostrophe, c'est horrible. Sid Meier a insisté. Et là, Brian, son associé, a dit, OK, mais... pour que les gens sachent bien que c'est différent. Et en même temps que s'ils ont aimé tes jeux précédents, ils jettent un œil à celui-là, on va mettre ton nom avant Sid Meier's Pirates. Et en fait, Pirates a fonctionné, bien fonctionné. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont continué à
explorer d'autres.
Et puis à mettre le nom de Sid Meier, avec le temps devenu une marque de fabrique. C'est assez marrant. Il m'a dit, des fois, j'ai quand même l'impression que c'est une autre personne.
Mais est-ce qu'il y a des jeux sur lesquels ils ne bossent pas directement, en fait?
Oui, notamment, on l'a dit, hein, les dernières civilisations, il a pas bossé, mais voilà, c'est une marque.
Ouais,
c'est devenu une marque de fabrique. Et donc, mais j'ai quand même voulu lui demander parce que j'ai trouvé que le fait de mettre son nom, ça pouvait être aussi considéré comme une étape importante pour la reconnaissance des créateurs de jeux vidéo. Hein. On sait très bien au début, ils n'étaient pas très très reconnus. Hein. Même au tout début chez Atari, c'était interdiction totale.
Ouais,
Dans Adventure, il y avait le Easter Egg très connu d'Adventure où le créateur avait laissé sa patte. Mais autrement, c'était... Et puis du coup, ils étaient partis fonder Activision à l'époque. Mais voilà, donc est-ce que c'est une étape importante? Et moi, je lui demande innocemment, mais... Et donc, du coup, c'est quand même important que le public sache qu'il y a des gens derrière les jeux vidéo.
I don't think so.
No.
A lot of what we try to do is kind of...
J'en suis pas sûr. Une grande partie de ce qu'on fait, c'est finalement sortir du chemin du joueur. Alors, c'est get out of the way, je suis désolé. Nous créons juste le premier chapitre d'une histoire et nous donnons tous les outils aux joueurs pour qu'ils écrivent les chapitres suivants. Ensuite, nous nous effaçons. Le boulot d'un designer, c'est de se faire discret, de se mettre dans un petit coin, dans l'ombre, pour observer ce que fait le joueur.
I don't think it's necessarily a good idea to highlight the designer.
De ce point de vue, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de mettre en lumière le créateur. Et puis, il y a plein de gens qui travaillent sur les jeux. C'est Sid Meier's Starships, mais il n'y a pas que moi dans l'équipe. Dans le cas présent, les autres comprennent pourquoi on met mon nom, mais ils savent qu'on reconnaît qu'ils ont travaillé dur, et ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas leur travail. Donc voilà, alors pour le coup, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Enfin,
c'est intéressant parce que si on compare avec le cinéma, où c'est pareil, quand on parle d'un film, on parle du réalisateur avant tout, mais on sait que derrière, il y a une flopée de personnes qui bossent avec lui et qui pourraient jamais faire le film tout seul. Mais il incarne en général le chef d'orchestre. C'est lui qui justement dirige tous les autres corps de métier. Donc
lui il considère aussi que en fait il me l'a dit un peu avant dans l'interview, c'est même un des credos de Firaxis, parce qu'ils ont des règles de game design.
Ah ouais.
Et c'est notamment la première des règles, c'est il faut que le jeu soit amusant, soit fun pour le joueur, pas pour le créateur. C'est-à-dire que ça ne sert à rien pour un créateur de montrer au joueur combien il est intelligent et combien c'est très bien ce qu'il fait si c'est pas amusant pour le joueur. Donc le premier point. Et il y a toujours ce côté où pour Sid Meier, le designer est là pour donner les outils au joueur pour que lui crée sa propre histoire. C'est vraiment
s'approprie un peu.
Et donc le but du designer, c'est de se rendre invisible. C'est vraiment là pour laisser justement entière la liberté complète aux joueurs pour s'approprier ces outils. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là franchement, sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Comme j'ai dit, il y a plein d'autres passages de cette interview donc à retrouver dans Libération vendredi prochain. Mais on a eu quand même un peu Sid Meier dans Silence en Joue.
Ça, ouais.
C'est un petit peu la classe. C'est le moment de partir dans Londres en 1886 avec des loups-garous.
Entre autres.
Centuries have passed, but our order has remained steadfast in its sacred mission to preserve the balance between man and half-breed. That balance is threatened by a new contagion, the rebellion.
You have no idea who you're dealing with.
All knights to arms! Let's eliminate these godless rebels once and for all.
I need you to provide cover.
We really believe the rebels are collaborating with the half-breeds.
We're converging from the hospital. We need to unravel this without arousing suspicion.
Incoming!
The Order 1886. Alors, avant qu'on parte dans un débat, établissons un petit peu le contexte narratif de The Order 1886, où donc nous sommes dans une Londres victorienne steampunk en 1886, et que il y a des loups-garous et des rebelles, hein, parce que voilà, il y a des rebelles, des loups-garous, Nikola Tesla, Darwin, les chevaliers de la table ronde qui luttent contre les loups-garous et la rébellion, avec l'aide donc de la technologie de Tesla pour je sais plus en fait. C'est
oui.
C'est brouillon. Non, voilà. Rien que voilà, le contexte narratif un petit peu lourd, hein, de The Order 1886, qui est quand même le blockbuster next-gen, en tout cas en attendant Witcher 3, de ce début d'année. C'était le gros morceau, hein, sur PlayStation 4, exclusivité de Sony, développé par Ready at Dawn, qui était surtout connu pour des adaptations, des portages
sur portable, beaucoup
des portages sur PlayStation PSP. Portable PSP, notamment de God of War ou de Okami à l'époque,
sur Wii.
Voilà, et qui se retrouve quand même avec le gros morceau, hein, le gros morceau de Sony. Eh ben, je te laisse la parole, Patrick. C'est sympa, hein.
En effet. Alors ça, quand tu briefais un petit peu l'histoire du jeu, c'est vrai que maintenant que j'y repense, c'est que ça m'a fait un peu penser à Van Helsing, tu sais, le film Universal qui date d'il y a une dizaine d'années, qui était pareil aussi, une espèce de mash-up comme ça de tous les monstres. Il y avait pas mal de choses qui étaient imbriquées, avec un côté un petit peu gothique et tout ça. Et c'est vrai qu'au niveau du scénario, voilà. Alors, c'est un objet intéressant, The Order 1886. C'est un objet intéressant parce que moi, ça fait très longtemps depuis que je joue aux jeux vidéo, hein, j'ai commencé sur Amstrad, je vais pas vous refaire tout mon historique, mais depuis des années, moi, je m'intéresse à ce mariage entre jeux vidéo et cinéma. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé passionnant. C'est pour ça que j'ai cette tendresse toute particulière pour CinemaWare, par exemple, qui pour moi était le premier studio, je vais pas revenir là-dessus, mais qui a vraiment voulu questionner ce rapport entre jeux vidéo et cinéma en réutilisant des images, des mises en scène du cinéma de façon très en avance sur son temps. Donc voilà, là on peut imaginer le dossier du cinéma et du jeu vidéo. C'est un très très gros dossier. Le rapport entre les deux médias est d'ailleurs passionnant à étudier parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que évidemment, le cinéma, il est plus ancien que le jeu vidéo.
Et notre ami Alexis Blanchet, hein.
Évidemment, Alexis qui a écrit un super bouquin là-dessus sur le sujet. Le rapport entre les deux est passionnant parce que moi, j'ai toujours eu la sensation que évidemment, le cinéma, c'est un peu le modèle parce qu'il est là depuis bien, bien avant. Il est mainstream. C'est un peu un grand frère, le cinéma, qui fait un petit peu office de référence. Et qui, à une époque dans le jeu vidéo, on a pensé que c'était vraiment l'avenir du jeu vidéo, le cinéma. Il faut se rappeler de toute l'époque des films interactifs. Il y a eu pas mal de questionnements là-dessus, sur l'intégration d'acteurs filmés, etc. Donc on s'est beaucoup posé de questions à une époque. Aujourd'hui, c'est moins clair. Je pense que c'est, comment dire, l'appréhension cinématographique du jeu vidéo est une famille de jeux vidéo qui est surtout présente dans le jeu d'aventure. D'ailleurs, on peut parler de Telltale, on en parlait tout à l'heure. On peut parler de Quantic Dream, qui a aussi cet abord par la matière cinématographique avec des acteurs qui sont employés, etc. Et en tout cas, c'est une des formes présentes de jeux vidéo. Et je trouve que c'est une tendance intéressante à suivre et qui s'inscrit dans toute une histoire qui date pas d'hier, de rapprochement vraiment foncier entre le jeu vidéo et le cinéma, qui pose évidemment ces questions. Des questions de liberté de gameplay, de mise en scène, de jouabilité, et etc. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce jeu, je pense que tu vas en parler, il est pas sans défaut, loin de là. En tout cas, il a le courage de poser la question de, justement, cette imbrication cinéma-jeu vidéo dans un contexte de jeu d'action à la troisième personne.
Mais alors, j'ai une question, mais très très innocente. Mm-hmm. T'es pas le premier que j'entends faire ce parallèle cinéma et jeu vidéo pour The Order. Moi, je l'ai pas vu. Mm-hmm. Je comprends pas, en fait, je comprends pas quand j'ai joué, pourquoi, quand on voit The Order, on parle de cinéma. Qu'est-ce qui fait penser de cinéma? Parce qu'il y a ces cinématiques qui racontent l'histoire, mais pourquoi justement est-ce qu'on parle de cinéma quand on parle de The Order? Moi, je l'ai pas du tout ressenti, en fait.
Moi, je le ressens en jouant sur le côté, comment dire, sur cette mise en scène où tu as gameplay et séquences narratives qui s'enclenchent et qui sont quasiment, sans parler de gameplay, hein, qui sont à l'œil, en fait, qui sont transparentes. C'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre, ça s'imbrique complètement. Et il y a aussi des plans que je trouve très cinématographiques dans des choses que moi j'ai trouvé plutôt marrantes, qui ne servent à rien dans le jeu. C'est les moments où on s'empare d'un objet, on peut le retourner dans tous les sens. Voilà, on voit notre personnage attraper un objet, le retourner, ça ne sert quasiment à rien. On peut parfois trouver une indication derrière un objet. Ça n'a pas d'utilité, mais j'ai trouvé ça marrant de donner cette possibilité, un peu comme Shenmue l'avait fait à une époque, où on pouvait comme ça manipuler des objets, bon, etc. Ça, pour moi, c'est typiquement cinématographique. Et l'aspect filmique du jeu, si le terme correspond bien, il est là-dedans. Il est dans ce côté un cut. C'est-à-dire qu'on a la caméra se met en route et on a le film qui se déroule avec l'action, le jeu, la cinématique qui s'enclenche, des séquences comme ça narratives, et tout ça est imbriqué dans la même dynamique, livrée en même temps, sans rupture, comme on a dans le jeu vidéo en général, avec une cinématique, le gameplay.
J'ai quand même l'impression que les ruptures qu'il y avait jusqu'ici dans le jeu vidéo entre cinématique et scène d'action, c'était des ruptures, en tout cas pendant très très longtemps, des ruptures techniques, parce que le moteur graphique temps réel et le précalculé, voilà, pour avoir des cinématiques qui pètent à la Final Fantasy et ce genre de choses, mais que plus en plus, notamment avec cette génération de consoles, il me semble complètement improbable, parce que même GTA V, finalement, on est quand même dans le cinéma, parce que c'est...
Ouais, bien sûr. Et là, il y a tout bêtement, quand on lance le jeu, on a ces barres noires qui font qu'on est en format 16/9, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, on est sur un format typiquement cinématographique, avec finalement une interface assez...
Cinémascope, presque.
Cinémascope, on est vraiment sur quelque chose de rétréci et de... qui donne vraiment un aspect cinéma. Et tout ça évolue. Et je pense que, comme tu disais, je pense que ce jeu fait pas mal parler de lui, parce qu'il symbolise, comme tu le disais, ce moment où finalement les réalisations de cinématiques et de gameplay elles-mêmes sont faites sur le même moteur, qui est un moteur qui est super beau. Enfin, on a rarement vu un jeu aussi beau visuellement, avec un soin du détail hallucinant sur les vêtements, sur les objets dans le jeu. Enfin, visuellement, il a un cachet.
Mais il est marron.
Ça, c'est... Oui, il est un peu marron, marron-gris.
Ah, marron-gris, quoi.
Mais il est très...
Alors, je sais pas comment on peut...
Il est très révolution industrielle, en fait.
Non,
mais il fait très acier, marron, il fait très...
Marron-gris, mon ami Sébastien Delahaye, Ned Sabès de Canard PC, en parle depuis la PlayStation 3 et la Xbox 360. Hein. C'est la couleur de la génération précédente. C'est-à-dire
qu'on a vu
avec
Gears of War, par exemple.
Voilà, tous les jeux. Tous les jeux qui veulent faire joli, ils sont tous marrons. Et moi, je suis désolé, effectivement, technologiquement parlant, le moteur de The Order est au top. En même temps, un blockbuster sur les consoles de cette génération-là, ce serait un petit peu dommage qu'il soit pas beau. Enfin, en tout cas, qu'il n'y ait pas...
Non, mais c'est vrai qu'il est surprenant au niveau de la finition. Bah, c'est ça qui m'a bluffé, c'est vraiment la finition sur des tout petits détails, mais qui donnent aussi, qui contribuent à ce côté cinématographique, les mouvements, dans les détails.
Le problème, c'est que moi, aujourd'hui, en tout cas, depuis quelques années, on va dire, depuis The Last of Us, les générations précédentes, quand c'est joli, quand c'est techniquement parfait, moi, je regarde plus la technique, je regarde l'esthétique. Et je suis désolé, là-dessus, quand même, l'esthétique. Je ne parle pas de la technologie, des particules.
Derrière les moteurs,
effectivement, les textures sont incroyables dans The Order. Mais l'esthétique, ce Londres victorien steampunk, on va dire, même s'il n'y a pas trop de vapeur, c'est pas steampunk, c'est on va dire rétro-futuriste. Mm-hmm. C'est un peu à la
Dishonored d'ailleurs.
Hein. Un peu, voilà.
Il y a des points.
D'une part, un air de ce déjà-vu et d'autre part, d'une part, avec ce filtre Instagram marron là qui est sur tout le jeu. Moi, j'ai du mal à qualifier le jeu de joli, quoi. Enfin, c'est un peu lourd parce que d'une part, c'est une pièce montée, un peu indigeste en fait, The Order.
Il y a beaucoup de choses dedans, et c'est un jeu qui est très clivant aussi à cause de ça. C'est que, comme on disait, donc il y a des parties pris graphiques, il y a des parties pris de gameplay, avec ces enchâssements entre scènes cinématiques, jeux de shoot. Moi, j'étais plutôt bien surpris. Moi, j'ai plutôt bien aimé le gameplay des séquences de shoot. Je trouve qu'elles sont plutôt nerveuses. On retrouve un look and feel très Gears of War.
En jouant,
je m'attendais plus à, je m'attendais vraiment à Uncharted-like. Et en fait, en y jouant, je me suis rendu compte qu'on était plus proche d'un Resident Evil 5, par exemple, en termes de gameplay, de feeling par rapport aux armes, aux ennemis, etc. Et finalement, on est plus proche d'un Resident Evil 5. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte en jouant.
C'est Gears of War.
Et sur le côté, se cacher derrière les éléments, les gunfights, etc.
Les soldats à épaulettes aussi. Enfin, il y a un moment où on est sur... Et le filtre marron, plus le cover TPS où on cesse de... Enfin, moi, j'aime bien. En plus, j'adore le cover shooting. Parce que je suis un peu une flippette. Et le fait de pouvoir me cacher derrière des boîtes pour arroser les ennemis, moi, je suis très content. Et j'aime bien ce style de jeu. Mais il y a un moment où, quand c'est déjà tellement vu et déjà vu...
On a tous les classiques, on a la barre d'énergie qui remonte toute seule dès qu'on se met en protection. Enfin, on retrouve tous les codes qu'on connaît.
Et puis les codes récents, c'est-à-dire le mode horde qui arrive de manière régulière dans le jeu.
Avec des passages où on doit
passages,
en tuer
on doit tenir,
un certain temps.
On doit tenir,
c'est là où il y a une frustration, c'est qu'on sent qu'il y a un travail sur l'univers. On sent que voilà, les gars ont bossé à fond sur l'univers, en vouloir créer toute une mythologie avec des décors, etc. Et c'est vrai qu'on se dit, finalement, en jouant, on a cette sensation d'avoir quasiment déjà joué au jeu, en fait, d'avoir déjà connu les situations, et c'est frustrant, pour
aller dans ton sens, c'est dès les 10 minutes, les 10 premières minutes du jeu à peu près, enfin, il faut jouer à peu près l'intro pour se retrouver autour de la table ronde là.
Au début, on sait
qu'il va y avoir un traître, on sait qu'il va y avoir un twist au bout de 4-5 heures, machin. C'est le twist est tellement attendu que presque il fait peur.
C'est très téléphonique.
Et le truc, le truc qui m'a sidéré, c'est que je me suis dit, tiens, finalement, c'est pas si facile que ça de créer un univers, parce que les mecs, c'est l'exemple typique de tout ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est-à-dire qu'on a un name dropping absolument horrible du début à la fin. Tesla, qui
fait un peu Q dans les James Bond d'ailleurs. Il a un peu employé à la Q, Beckham.
Les Perceval, Arthur, machin, enfin tout.
Jacques Léventreur, qui est pas mal cité, tout le mythe de
Londres de cette époque-là. Et les loups-garous dessus, et le machin.
D'autres choses après, il y a des...
C'est plombant, c'est vraiment... Je pense que moi, le moment qui a vraiment fait bascule dans ma partie de The Order, c'est justement après cette longue intro, ou même après l'intro, le tutoriel et machin, on se retrouve autour de la table ronde, donc où on commence à découvrir cette société secrète qui surveille les loups-garous depuis des siècles. Ah oui, il y a des sociétés secrètes aussi dans le genre bien attendu. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi avoir surchargé à ce point l'univers scénaristique ? C'est-à-dire que oui, d'accord, bon, ils ont fait un TPS, un cover TPS. Bon, si on interdit aux gens de faire des cover TPS, bon, c'est chiant parce que on va interdire aux gens de faire des FPS, on va interdire... Oui, faites un cover TPS, j'ai aucun souci avec ça. Mais j'ai l'impression que justement, pour se démarquer de Gears of War, voire
ouais,
même
justement,
de
Gears of War est beaucoup plus, enfin en termes scénaristiques, Gears of War, c'est, il y en a pas.
C'est un cover TPS, t'as voilà. pas besoin, même si tu veux faire un petit peu de cinéma avec un joli moteur et tout ça, t'as pas besoin d'avoir un scénario,
Moi ça me dérange pas, c'est au contraire bah, que justement que le studio ait envie et une ambition de poser des choses, de voilà d'avoir des personnages. Au contraire, je trouve que c'est même plutôt bien, voilà d'enrichir son gameplay et de voilà d'essayer de créer un univers autour, c'est même plutôt bien et de créer un nouvel univers aujourd'hui, même s'il est rapiécé, comme tu dis, d'avoir pas mal de choses qui viennent d'un droit à gauche, mais il y a quand même cette volonté de créer quelque chose de...
Mais la volonté, ça suffit pas. Ça suffit après... pas. Le problème aussi, c'est qu'on a l'impression qu'ils se sont amusés. Moi, je sais pas, c'est comme quand je voulais créer mes univers de jeux de rôle quand j'étais gamin, quoi. voilà, où j'aimais bien Call of Cthulhu, Donjons et Dragons et tout ça. Et je me dis, oh, j'ai créé mon univers et tout ça. Et puis, tu créais, tu rajoutais des trucs à droite, à gauche, tu mettais toutes tes inspirations, machin. Le truc, c'est que après tu te disais bah oui mais personne va vouloir jouer dans cet univers, c'est complètement débile. Et le problème des mythopoètes, parce que j'ai interviewé Alain Damasio qui se dit mythopoète, c'est-à-dire créateur d'univers, forgeur d'univers, c'est que ils doivent créer des univers où la narration est possible, et finalement c'est la narration dans cet univers qui est importante. C'est pas l'univers lui-même. L'univers lui-même, il n'est là que pour porter la narration. Quand l'univers que tu as créé va complètement phagocyter la narration qu'il y a au-dessus, parce que justement il est tellement lourd que c'est impossible de raconter une histoire dans un univers pareil. C'est impossible de raconter une histoire avec des loups-garous, Jack l'Éventreur, les chevaliers de la ça table ronde, beaucoup, ouais. Le rétrofuturisme et des dirigeables au-dessus de Londres. Tu peux pas raconter une histoire là-dessus, c'est trop complexe, l'univers il est trop complexe. Donc du coup bah l'histoire elle est naze, et alors peut-être que l'univers est rigolo, qu'ils ont eu des idées mythologiques et tout ça, sauf que c'est mal fait, ça marche pas. Après, c'est vrai que sur le jeu, bah, c'est un cover TPS.
Ouais, qui marche plutôt bien. Moi, je trouve que voilà, comme je disais, moi, je trouve que les séquences de shoot sont plutôt nerveuses et répondent bien. Je trouve qu'il y a des bonnes sensations de gunfight. Là où moi j'ai décroché, c'est justement les niveaux, comme tu disais, sur la narration. C'est pas, il y a quelques niveaux où finalement il n'y a pas d'action. Ça arrive. Hein, j'ai vraiment le souvenir de après le crash du ballon. À un moment, on se retrouve. C'est tout bête. Hein, mais il y a un niveau où finalement on avance. Ça dure quelques minutes et finalement il y a pas d'action. C'est-à-dire qu'on est juste là pour juste dérouler le scénario. Là, moi, ça m'embête parce que autant j'aime bien l'effet de style de dire on imbrique du gameplay, de la cinématique de façon fluide avec un petit peu de QTE entre deux histoire de rester pour que le joueur reste attentif, fait gaffe à ce qui se passe et pose pas la manette en gros. Sachant que ça marche plutôt bien. Moi, j'ai plutôt joué le jeu. Enfin, on a pas mal parlé de la durée de vie. Moi, je sais pas, ça doit faire à peu près 7 heures de jeu. Je trouve, c'est pas quelque chose qui me choque plus que ça. Moi, je trouve que voilà, l'imbrication des différents éléments est un truc intéressant. Je pense qu'il faut continuer à creuser. Moi, ces niveaux où il n'y a pas de gunfight, ça m'a posé problème. Où je me suis dit, bah là, je suis juste là pour un peu avancer, dérouler les scénarios, etc. Il y a aussi moi, les séquences d'infiltration que j'ai trouvé qui étaient pas, qui étaient hors sujet, qui fonctionnent pas. Et là, je me dis, c'est dommage parce que on sent que le studio a bien géré ces gunfights. On sent qu'ils ont bien travaillé sur cet aspect-là. Voilà, l'infiltration, finalement, elle apporte pas grand-chose. Elle est plutôt creuse. Ça, et les puzzles aussi, quand on doit court-circuiter. Voilà, c'est dommage, parce que ce sont des pistes. On sent que, comme tu dis, ils voulaient mettre beaucoup de choses dans le jeu. Ils ont voulu, aussi bien en termes scénaristiques que de gameplay. On sent qu'ils ont vachement cogité le truc. Ils ont voulu mettre plein de phases
non,
de jeux différentes.
Ils ont pas cogité le truc.
Mais moi, je pense que si. Je pense qu'ils ont voulu mettre trop de choses dans le même jeu.
Mais non,
finalement,
à ce moment-là, t'as pas réfléchi.
Et que justement, il y a ces moments où, voilà, où l'infiltration, bah, ça marche pas bien. Les trucs de puzzle, bah non, en fait, ça apporte pas quoi finalement, et c'est un peu dommage. Voilà, je pense que c'est là où on se dit que voilà, ça aurait pu être plus
Non mais moi c'est en plus j'étais dire quand je l'ai lancé, je n'avais aucun a priori négatif, vraiment aucun. Je me disais c'est cool, un blockbuster, ça fait longtemps, et là pour le coup c'est m'est complètement tombé des mains, et je trouve qu'il y a des erreurs de conception à tous les coins dans ce jeu, que ce soit au niveau de l'univers, au niveau de la narration, au niveau du gameplay, au niveau de tout. Et justement c'est un peu comme des enfants qui découvrent un coffre à jouets. Tiens, on a du pognon de la part de Sony qui nous paye pour faire un gros blockbuster, allez, qu'est-ce qu'on peut mettre, et du coup il y a aucune direction, et ça donne un jeu fourre-tout quoi, fouillis, et voilà. J'ose espérer qu'il y aura pas The Order 1800 1987, c'est tout.
Je pense que si, c'est probable. À mon avis, si.
On va retrouver. On est un peu pas dans le timing. C'est dingue, on n'est que deux et on parle. On va retrouver Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de parcourir le fantastique monde d'Arcadia grâce à Looney Quest, un jeu signé Laurent Escoffier et David Franck. C'est illustré par Paul Maillafon. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes et c'est édité en français par Libellude. Alors, Looney Quest est un jeu un peu particulier, un peu spécial. Ça ressemble à un jeu vidéo, mais ce n'est pas du tout un jeu vidéo. Ça va faire appel à des parties de votre cerveau que peut-être vous ne soupçonnez pas l'existence. C'est un jeu qui va vous amener vers un plaisir un peu étonnant. Il est très enfantin, mais aussi extrêmement adulte. Voilà pourquoi il rencontre un fort succès à peine sorti sur les étals des boutiques. Je vous explique le principe. Il est composé comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des mondes à explorer. Vous allez grimper de monde en monde, ils sont plus ou moins compliqués, et dans ces mondes, vous avez des levels. Vous allez commencer level 1, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis vous allez taper le boss de fin de niveau. Quand je dis taper, c'est pas vraiment taper parce que c'est un jeu gentil. En gros, je vous explique le principe. Chaque monde est composé de petites cartes sur lesquelles sont dessinées des choses, comme une espèce de genre de parcours. Chaque parcours va vous demander des choses plus ou moins différentes, car la fonction que vous allez déclencher dans votre cerveau ne sont pas identiques à chaque niveau, à chaque parcours que vous allez explorer. En gros, ce parcours, il est posé au centre de la table. Il est composé de choses diverses et variées, d'éléments qui sont bons pour vous, qui vont vous rapporter des points de victoire, et d'éléments qui sont mauvais, qui vont vous faire perdre des points de victoire, voire même qui vont vous faire mourir et vous allez marquer 0 points. Ce parcours, vous allez le visualiser au centre de la table. Et chaque joueur a devant lui une espèce de genre de transparent qui fait exactement la taille du parcours. Et avec votre marqueur, qui est effaçable bien sûr, puisque vous n'allez pas jeter au fur et à mesure vos transparents, avec cette petite feuille transparente et votre marqueur, vous allez devoir dessiner le parcours à main levée en vous focalisant sur ce qui est au centre de la table. Et vous avez compris le principe, mon cher Erwan, car vous êtes très malin. À un moment donné, pour vérifier si vous avez marqué des points ou pas, vous allez prendre votre transparent, le poser sur le parcours qui est au centre de la table et vérifier si vous avez bien encadré des étoiles, si vous avez bien évité les petits ennemis, si vous avez bien tracé un point, une ligne qui part du point A jusqu'au point B. Vous allez accumuler vos points, puis vous passez au niveau suivant et au niveau suivant, et ces niveaux sont de plus en plus difficile, il vous demande de faire des lignes, d'entourer des choses, de faire des points, enfin bref, tout un tas de variantes, de variables sur le fait de devoir repérer à distance des choses qui sont posées devant vous à quelques centimètres. Et c'est idiot, mais ça fonctionne. On a envie de jouer, de rejouer, de re-rejouer. C'est extraordinaire. En plus, ils disent de 2 à 5, mais on peut jouer tout seul pour s'entraîner. Bref, c'est une vraie merveille qui rencontre son public. La boîte coûte une 30aine d'euros. Le travail graphisme éditorial est extrêmement bien fait. Je vous l'ai dit, ça rappelle le jeu vidéo. D'ailleurs, on se dit, on y joue. Tiens, ça ferait un excellent jeu sur iPad ou iPhone. Et je me dis que l'éditeur peut-être y pense. Je vous rappelle le nom, Looney Quest. C'est un jeu designé par David Franck et Laurent Escoffier. C'est illustré magnifiquement par Paul Fire. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes. C'est chez Libellude, ça coûte 30€. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Toujours le meilleur site du monde sur les jeux de plateau et les jeux de société. Pardon. Pas de minute culturelle. Ouais, ah, t'es tout seul, donc on va pas. Encore une fois, si vous voulez envoyer des questions au chroniqueur minuteculturelle@gmail.com. Et puis on va finir sur ce petit jeu, ce petit ovni made in France. Mm-hmm. On dirait pas comme ça à l'apparence, presque très comics, vu que c'est une adaptation, oui. d'un comics sorti chez Image, Blue Estate, c'est comment il s'appelle le studio déjà, je ne sais plus, j'ai très honte.
ISO, le studio français
ISO,
de développement. Oui,
ISO, Blue Estate, on écoute.
Son of a... Give me a break already. Yeah, you don't need a gun, Tony, you're an angel of murder. Whoever did this to me, you're dead.
Blue Estate, qui était sorti il y a une petite année déjà sur PC comme une exclusivité avec le Leap Motion. Le Leap Motion, est-ce que vous en souvenez? Probablement pas, parce que ça n'a pas fonctionné. C'était un détecteur de mouvement des doigts pour PC, c'est-à-dire que c'est une sorte de mini Kinect, de mini Kinect sur PC, et donc il y avait ce jeu Blue Estate qui fonctionnait avec
c'est
le Leap Motion.
Le
ouais, voilà, c'était une sorte de d'exclusivité partenariat, voilà, sorti avec le Leap Motion, et donc on pouvait utiliser ses doigts pour tirer sur les ennemis. C'est un rail shooter dans la grande tradition des rail shooters, et il débarque, logiquement, on va dire, sur Xbox One.
Exactement. Alors Blue Estate, à la base, donc, comme tu disais, donc, c'est un comics de Victor Kalvachev qui, voilà, qui a signé, donc, c'est en 4 tomes. Donc voilà, c'est un comics très polar.
La version française est chez Ankama.
Chez Ankama, exactement, en VF. Donc c'est, voilà, c'est un polar très, moi je dirais, très tarantinoesque, assez barré, enfin, qui a un visuel très, très sombre et très. Enfin, c'est vraiment du polar assez, comment dire, très porté
brutal,
action,
hein.
brutal, et voilà, qui envoie pas mal. Donc, le jeu Blue Estate, donc, c'est une adaptation de cet univers, et comme tu disais, donc, c'est pas la première version. Là, il arrive sur Xbox One, il est arrivé il y a quelques jours maintenant. Donc moi j'avais testé à l'époque sur de, donc sur le Leap Motion, bon gameplay un petit peu compliqué. Il était sorti sur PS4 je crois en juin dernier, donc il y a un peu moins d'un an. Alors là c'était déjà un petit peu mieux. Alors en fait on y jouait avec le DualShock 4 et en fait le jeu repérait les mouvements du DualShock 4, ce qui est plutôt une bonne idée parce que tout le monde a un DualShock 4 chez lui. Donc ça rendait le rail shooter abordable. Le souci moi qui m'avait posé problème à l'époque, c'est qu'on avait une touche de recalibrage et on passait son temps à recalibrer, parce que voilà, le DualShock il a aussi ses limites.
Ouais.
Et du coup, on passait pas mal de temps à recalibrer. Et bon, c'est vrai que celui qui n'est pas motivé forcément, qui n'est pas forcément habitué au genre, recalibrer tout le temps, c'est pas instinctif. Bon, voilà, ça alourdissait un petit peu le gameplay. Et enfin, le jeu vient d'arriver sur Xbox One, et à mon avis, il a peut-être trouvé vraiment sa plateforme de prédilection. Et comme tu disais, voilà, ça fait enfin plaisir d'avoir du rail shooter, parce que comme tu disais, on n'en a pas beaucoup en ce moment. Le rail shooter, il a eu son âge d'or hein, sur les bornes d'arcade. C'était,
bah oui.
c'était même quasiment un genre de démo techno. C'était un des genres mythiques. Les bornes Virtua Cop, les Time Crisis à l'époque avec la pédale pour se cacher, etc. C'était
raconté
génial.
Combien de fois j'ai fini Time Crisis avec un seul.
Non, et je pense qu'on fréquentait la même salle en plus à l'époque. Donc voilà. Non, mais je moi je suis vraiment. Il me manque ce genre. Moi, je les ai tous écumés, ces jeux-là. Les House of the Dead.
Il y en a eu Sega, des récents là.
Sega aussi avait eu des très bons jeux. Les House of the Dead, les Ghost Squad aussi qui étaient très bons. On a vu un deuxième passage de Die Hard Trilogy aussi qui était très très bon. Un bon rail shooter. C'est un genre qui a quasiment disparu quand même aujourd'hui, qui est beaucoup moins.
Il y en a eu quand même récemment. Il y a eu ce Dead Space.
Ouais, mais qui commence à dater
shooter,
aussi. Hein, mais bon,
le truc complètement taré là sur la Wii, très cinéma bis.
Ça, mais c'est le House of the Dead. C'est celle qui doit avoir 5 ans maintenant, qui date un petit peu aussi. Donc voilà, on en avait parlé ici même. Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup et que voilà, qui me manque. Donc voilà, dès qu'il y en a un qui sort, je me jette dessus. Et donc, comme je vous disais, l'intérêt, c'est que le jeu, donc le Blue Estate, arrive sur Xbox One. Et ce qui est génial, c'est que enfin, un jeu qui exploite Kinect, le Kinect de la Xbox One. On a déjà parlé ici de D4, le jeu d'aventure de Swery, il y a quelques semaines, j'en avais parlé, qui justement montrait que le Kinect employé et un peu avec un jeu pensé pour, et on peut faire des choses intéressantes avec. Et avec Blue Estate, c'est flagrant parce que en jouant à ce titre sur Xbox One, c'est tout bête. Mais on retrouve ces sensations d'arcade. On retrouve parce que il faut se rappeler, on jouait à l'époque, on mouillait la chemise quand on était debout dans les salles d'arcade, on tenait son plastique, son gun en plastique, on jouait pendant un petit moment debout, il fallait bouger, etc. C'est ça le rail shooter, c'est pas être affalé dans le canapé avec sa manette. Il faut revenir à ce qu'est l'essence de ce genre-là. C'est d'être debout et d'avoir même quasiment un rapport physique. On a un rapport physique parce que finalement on se déplace dans des, c'est paradoxal parce qu'on se déplace dans des environnements précalculés, hein. On suit un rail shooter donc sur des rails, mais finalement on a ce rapport très très physique avec l'action, avec ce qui se passe à l'écran. Et donc avec cette version Xbox One, on a vraiment cette sensation d'être sur une borne d'arcade, c'est-à-dire que on pointe de la main droite comme si on tenait un pistolet. En fait, on pointe, on bouge son viseur comme ça à l'écran, et donc on vise les ennemis, etc. Alors, ce qui est vraiment intéressant, et là, je trouve que c'est plutôt marrant, c'est que le jeu exploite vraiment. C'est là qu'on voit que le Kinect est plutôt bien foutu, le Kinect de Xbox One, et repère bien les mouvements, bien plus que la première génération. C'est que on a plusieurs gestuels, c'est-à-dire que on est un peu ridicule en jouant, mais c'est pas grave parce qu'on on s'amuse bien.
Faut assumer,
donc on vise avec la main droite pour recharger. Évidemment, on met la main vers le bas comme on faisait en arcade. Ouais. Hein, on tirait vers le bas. Pour changer d'arme, on met son sa main comme ça vers l'arrière, comme si on cherchait une arme derrière soi. Moi, j'utilisais donc la main gauche pour les actions contextuelles, hein, ouvrir une porte, tabasser au contact un ennemi. Donc voilà, on est vraiment sur une gestuelle comme ça qui utilise.
Sachant que une des trouvailles que je trouve intéressant, enfin, un des trucs que je trouve intéressant et qui n'a pas été beaucoup exploité dans le rail shooter, c'est que pour parce que dans ta main, tu n'as pas de gâchette.
Non.
Et en fait, donc le tir automatique. Et, ouais. et finalement ouais. Ça se passe bien.
Je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais très très peur de ça. Moi, quand j'ai appris que c'était un tir automatique, j'ai dit mais non, mais le sel du jeu, c'est quand on appuie. Et finalement, non, parce que justement, c'est là que en y rejouant et en jouant avec ce tir automatique, je me suis rendu compte que non, bah finalement non. L'intérêt, c'est le placement du viseur, c'est de d'esquiver, c'est de faire attention à son environnement, détruire l'environnement, parce qu'il y a une bonne gestion. Ça aussi, c'est aussi un point important dans le genre, c'est la destruction des environnements. Et là, on est servi. Il y a pas mal de casse, on a pas mal de choses. Et voilà, donc ouais, moi j'avais un peu peur de ce côté tir automatique, et en fait non, ça facilite, et du coup on se concentre vraiment sur ses mouvements, sur le déplacement du curseur, et ça marche très très bien. Le jeu permet même de jouer à deux en simultané avec un seul capteur Kinect, évidemment, donc ça, tout ça marche très bien. On peut aussi jouer à la manette classique si on n'a pas de Kinect, c'est vrai que maintenant tout le monde n'a pas forcément le Kinect avec...
Ah oui, c'est vrai.
Il est plus livré avec toutes les bécanes, donc on peut aussi jouer avec la manette, et le jeu reste très fun. Donc voilà, c'est, après on reste sur du bon rail shooter à des familles, avec les niveaux classiques, le niveau dans le cimetière, dans la boîte de nuit. Il est à 12€, je crois, environ, 13€ sur Xbox Live Arcade. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un ton Tarantino-esque, comme je le disais. On retrouve vraiment le ton du comics. Moi, ça m'a fait penser à Duke Nukem, un peu sur le côté un peu black barré, un des premiers boss qu'on va devoir battre. Il évoque quand même de très près un dictateur coréen bien connu. Enfin, voilà, c'est blindé, de clins d'œil, de choses marrantes comme ça. Il y a des trucs où on doit toujours remonter les cheveux du héros comme ça, avec la main gauche. Enfin, c'est plein de petites choses, mais qui sont marrantes et qu'on n'a pas forcément vu dans d'autres rail shooters. Donc voilà, il y a encore une fois destruction des décors qui marche bien. Moi, j'aime beaucoup. Puis ça fait plaisir de retrouver un bon titre du genre aujourd'hui. Il y en a plus beaucoup.
Blue Estate qui vient d'arriver sur la Xbox One.
Voilà, exactement, toujours sur PS4 aussi et PC.
Fini cette semaine pour le jeu vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, hein, promis. Mais la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper, Patrick, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi ?
Pas grand-chose en ce moment, j'avoue.
Ah bah oui.
J'avoue, pas grand-chose. Un petit coup de cœur. En passant, je suis passé un soir au détour d'une retransmission sur le câble, sur le Bal des Vampires de Polanski. Voilà, c'est un classique. Hein, mais moi, je le regarde à chaque fois. Dès qu'il passe sur le câble, j'arrête tout, je le regarde. C'est une règle. Parce que ce film, il est extraordinaire. Donc... on va pas vous refaire l'article, hein. C'est quand même un film qui cite le grand cinéma de la Hammer, le grand cinéma gothique vampiresque de la grande époque, mais avec ce côté décalé, ce pince sans rire très 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 Polanski. Donc voilà, c'est un film que j'adore, et je sais qu'il y a une comédie musicale qui est sortie. Les reviews sont plutôt bonnes, je crois. Je crois que Polanski a bossé dessus aussi, mais je pour l'instant, j'ai pas encore sauté le pas.
Tu nous en parleras.
J'en sais rien, j'ai pas encore. Voilà. Mais en tout cas, le film est une perle qu'il faut absolument voir pour ceux qui n'auraient pas encore vu. Voilà.
Bon, moi, pas grand-chose, même rien du tout. Hein. Ouais, je suis allé à Londres, je vais pas vous reparler des lapins crétins, hein, mais il y a des limites. Et puis, je finis la Horde du Contrevent, qui est toujours absolument génial pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas encore franchi le pas. Allez-y, franchement. Voilà, et donc, nous, là, pour le coup, c'est une promesse. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.